On en est où aujourd'hui?
C'est difficile à savoir. On en est où? On en est un dans la découverte, entre guillemets, d'abord des crimes de l'Église. Des crimes de l'Église, oh, c'est très curieux de voir à quel point on a peu de mémoire, puisque en réalité, à la fin du 19e siècle, il y a déjà beaucoup d'affaires qui mettent en cause des religieux. Donc pourquoi est-ce qu'on a l'air de découvrir ceci aujourd'hui? Ben, ça prouve qu'on manque d'histoire, donc ça justifie en quelque sorte mon rôle. Mais non, ça tient aussi au fait que, bien entendu, l'Église a fait régner quand même au maximum l'omerta sur ses pratiques. Elle a protéger, c'est vrai, ses desservants autant qu'elle l'a pu et pendant très longtemps et jusqu'à très très récemment et partout dans le monde. Or, partout où des institutions scolaires ou des institutions d'accueil ou des institutions hospitalières étaient entre les mains de l'Église, des abus sexuels, des agressions sexuelles ont été commises, ça me semble évident. Donc que ça sorte aujourd'hui, c'est une bonne chose, que ça sorte sur cette modalité étonnée, comme si on découvrait quelque chose, me paraît plus étrange. Quand même pour, non pas pour justifier, mais pour expliquer le désir de l'Église de protéger ses desservants, une chose est claire, c'est que l'Église reconnaît un droit, c'est le droit canon. Et donc, elle a toujours, elle ne reconnaît, elle a du mal à reconnaître la réalité d'un droit civil. Bon. Et donc, elle a toujours voulu régler la chose à l'intérieur de son institution. On règle les choses entre soi, ce qui ne veut pas dire qu'on ne sanctionne pas. Il me semble que, à la fois, il y a une espèce disons, de discours aujourd'hui un peu banalisé sur un pédophile est arrêté, un pédophile est condamné. Bon, ça fait partie maintenant, disons, de l'actualité quotidienne. Je ne suis pas sûre pour autant que ça s'accompagne d'une prise en compte tellement parfaite de la question, à la fois devant les tribunaux et sur le plan médical. Alors, je dirais deux choses. D'une part, parce que les victimes elles-mêmes, me semble-t-il, continuent de dire qu'elles ne sont pas toujours entendues, elles ne sont pas toujours entendues de manière fines, de manière suffisante, elles ne sont pas forcément accompagnées dans leur travail de dénonciation et puis dans leur travail de reconstruction ensuite. Hein, il y a toute une série d'associations qui se sont développées à partir des années 80 et 90, mais enfin, c'est pas forcément suffisant. Et puis, ce qu'on constate, c'est que depuis la fin des années 90, le code pénal s'est enrichi de toute une série de lois nouvelles qui sanctionnent de plus en plus durement, de plus en plus définitivement le crime sexuel sur enfant. Je pense notamment à la loi sur la rétention de sûreté, qui est un problème dans le droit français, qui est une loi qui est exorbitante au droit français dans la mesure où un individu qui a été condamné, qui a fait son temps, se trouve ensuite susceptible d'être placé en rétention, ce qui n'est pas la détention, alors même qu'il a payé sa dette à la société, comme on dit. Donc ça, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. C'est une loi qui met en cause les droits de l'homme et du citoyen. C'est une loi qui met en cause la question de la liberté individuelle. Je dirais qu'aujourd'hui, on est dans ce double registre à la fois peut-être d'une prise en compte insuffisante de la vraie réalité de ces pratiques, et en même temps dans un registre de répression, de contrôle social qui ne réglera rien. Parce que c'est pas comme ça. C'est pas à coup de lois répressives, c'est pas à coup d'emprisonnement que l'on réglera évidemment cette question-là. On n'éliminera pas l'homicide, on n'éliminera pas, je le crains, l'agression sexuelle sur enfant. Ce qu'on peut faire, c'est la réduire à un taux le plus faible, le plus mince possible. Hein. Durkheim disait, il n'y a pas de société sans crime, simplement, il y a un taux acceptable. Bon, ben on peut peut-être essayer d'arriver à ce taux acceptable, et ce taux acceptable, on peut y parvenir en prévenant les enfants, en faisant une éducation, hein, et en apprenant aux enfants que leur corps, c'est leur propriété, et que eux seuls ont le droit de décider de ce qu'ils en font, et que donc ils ont le droit de dire non aux adultes. Mais ça, évidemment, c'est très difficile parce que ça remet quand même en question une hiérarchie, et un principe d'autorité. si on dit non aux adultes pour ça, on peut dire non aux adultes pour le reste. Donc, on voit bien ce que ça engage, hein, de très profond et de très important dans le rapport adulte-enfant. Une dernière chose quand même que j'aimerais dire, c'est que alors que l'enfant n'existait pas ou très peu comme tel, mettons il y a 2 siècles, il me semble qu'aujourd'hui, il est devenu un peu le dernier lieu du sacré. Hein. Il est l'objet d'un investissement, en proportion même d'ailleurs de sa rareté en quelque sorte. Le contrôle des naissances fait qu'on n'a plus que les enfants qu'on désire. Mais alors, on les désire vraiment et on les investit. Et on les surinvestit peut-être. Et du coup, on voit bien que n'importe quelle atteinte faite à l'enfant, n'importe quelle offense est devenue un objet de réprobation. Enfin, celui qui s'en prend à l'enfant est un monstre. Le monstre moderne, c'est l'individu qui s'en prend à l'enfant, qu'il soit homme ou femme.
L'intégralité de chacun de ces entretiens est disponible gratuitement sur notre site internet et sur notre chaîne YouTube.